la même partition que les États-Unis, c'est-à-dire de puissance militaire globale. Alors, elle est une puissance globale, elle le veut, c'est même une façon pour elle de sortir d'une période calamiteuse de son histoire, mais ce n'est pas pour autant cette puissance hégémonique.
Surtout,
c'est
en ça qu'il y a une asymétrie. Surtout qu'il y a presque une contradiction, Marie-Françoise Honnard, entre une hégémonie militaire et une volonté de faire du commerce, parce que pour faire du business, il faut être en paix.
De toute façon, la Chine n'a pas les moyens de cette hégémonie militaire, parce que son armée est infiniment moins puissante et moins développée au niveau technologique que celle des États-Unis. Ils ont beaucoup investi dans l'armée, alors l'idée c'est qu'en 2050, ils deviennent la première armée du monde. Pour l'instant, ils n'ont pas du tout les moyens de faire ça. Je pense que ce que fait la Chine, c'est de se chercher des amis, des soutiens, et peut-être en cela, on pourrait imaginer qu'il y a deux blocs qui se constitueraient différemment des précédents, parce qu'avec ce projet, notamment des nouvelles routes de la soie, eh bien, la Chine accorde de l'aide, investit dans les pays, notamment en Europe, en Afrique et dans presque toutes les parties du monde. C'est une sorte de géopolitique qui fait que la Chine se trouve des alliés qui, un jour, pourront lui être utiles. On l'a vu dans le passé, quand elle a commencé à aider de façon significative l'Afrique, la seule condition qu'elle a mise, c'est que les pays reconnaissent la République populaire de Chine comme étant la Chine, et non Taïwan. Et là, on voit bien que dans l'aide qu'il peut y avoir, personne n'a oublié que c'est grâce à l'Afrique si la Chine a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, dans toutes ces zones de l'Europe de l'Est, dans les pays d'Afrique, dans certains pays d'Amérique latine, etc., elle se construit un réseau qui, à un moment venu, s'il y a vraiment une opposition avec l'Occident, eh bien, elle pourrait constituer une sorte de club de pays qui n'ont pas les mêmes valeurs que les États-Unis et l'Europe.
Alors, Jacques Chirac a martelé le même message.
La modernisation de la Chine ne pourra se faire sans un renforcement de l'état de droit. Au moment où la Chine s'ouvre au monde, l'affirmation de l'état de droit est la condition de la confiance des opérateurs internationaux.
Voilà, alors Jean-Christophe Ploquin, quand on entend Jacques Chirac avec ce discours qui sermonne clairement l'exécutif chinois, c'est quoi quand on regarde ça 20 ans plus tard? On a été naïf?
Alors, la dernière phrase, il évoque la confiance des opérateurs internationaux. Et là, je pense que quand même, il avait mis le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la confiance dans l'appareil chinois est modérée, on va dire. En Europe, aujourd'hui, il y a beaucoup de défiance. C'est-à-dire que la Chine, qui était effectivement jusqu'à présent perçue comme un pays qui allait, grâce au capitalisme, finalement, rejoindre la démocratie, aujourd'hui, le constat est clair dans toutes les capitales européennes, ce ne sera pas le cas. Et par ailleurs, il y a des pratiques, il y a une fermeture encore du marché chinois, il y a des pratiques déloyales par rapport à la propriété intellectuelle. Il y a quand même tout un tas de domaines dans lesquels les Européens ou les Américains sont devenus très critiques, très défiants par rapport à la Chine. Et donc, dans le commentaire de Jacques Chirac, il y avait quand même ça qui était juste, c'était que finalement, l'évolution de la Chine, si elle n'allait pas vers l'état de droit, allait susciter de la défiance.
Et est-ce que nous, Européens, Bertrand Badie, on peut tirer profit de ce bras de fer entre les Américains et les Chinois, où on risque d'en être les victimes collatérales? On rappelle que nous aussi, on a un énorme déficit commercial avec la Chine.
Alors, d'abord, ces propos de Jacques Chirac, ça va me permettre de rebondir sur votre question. C'est l'expression de toute la misère de la diplomatie occidentale. C'est-à-dire de dire, or, nous ressembler, il n'y a pas de salut pour vous.
Or, ils s'en fichent, les Chinois.
Mais absolument. Et non seulement ils s'en fichent, mais ils aiment bien prendre le contre-pied. Bon. Et puis, c'est une façon incroyable d'ignorer l'histoire et d'ignorer la différence aussi. Et le fait que le capitalisme chinois est un capitalisme qui, vous m'interrompez si je me trompe, n'a rien à voir avec le capitalisme occidental.
Mais alors justement,
nous avons manqué le train. Nous n'avons pas su monter dans le train de l'émergence. C'est-à-dire là. Le grand événement, le grand bouleversement du monde à la fin des années 90, ça a été l'apparition des phénomènes d'émergence, la Chine, l'Inde, le Brésil et beaucoup d'autres puissances encore.
Les BRICS.
Nous ne savons pas dialoguer avec eux. L'infériorité, la faiblesse de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas su entrer dans ce jeu de l'émergence.
Donc ça veut dire qu'il est trop tard maintenant pour essayer de remplacer les Américains.
Jamais trop tard pour bien faire, mais nous avons tout un tas de problèmes. Le premier problème, c'est qu'à l'intérieur de l'Europe, nous sommes divisés. C'est-à-dire, c'est extrêmement difficile d'avoir une politique unifié en Europe en matière de relations avec la Chine et d'une façon générale avec les puissances émergentes. Deuxièmement, nous ne savons pas parler aux émergents, c'est-à-dire il faut prendre des leçons de rattrapage. Et troisièmement, nous sommes quand même, que nous le voulions ou pas, comme fascinés par la nostalgie de la guerre froide. C'est-à-dire, nous ne voulons surtout pas couper le lien ombilical avec les États-Unis. C'était très commode. On s'en plaignait, on voulait la souveraineté nationale, mais en même temps, ça nous dispensait de cet effort de sécurité et de politique de défense.
Marie-Françoise Renard, c'est ça, c'est l'Europe aujourd'hui inexistante dans ce conflit, dans cette guerre.
Alors d'abord, malheureusement, l'Europe fera les frais de cette guerre commerciale comme pratiquement tous les pays, parce qu'il y a des chaînes de valeur qui font que la production se fait partout dans le monde. Donc déjà, on va payer indirectement, faire les frais de cette politique. On va les faire parce que la politique de Trump, elle est aussi dirigée vers nous. Il a dit qu'il allait prendre des mesures protectionnistes contre l'Europe. Elles vont coûter très cher à l'Allemagne, probablement. Et je crois que cela met en évidence les limites de l'Europe. Il y a une politique commerciale européenne. La Commission européenne a fait des efforts en matière d'accueil d'investissements étrangers, de relations avec la Chine, mais c'est très limité aux investissements et au commerce international. Malheureusement, pour le reste, on n'a pas de politique industrielle commune. La mondialisation a accompagner la croissance, mais elle a des effets négatifs, notamment en matière d'inégalité. Donc il faudrait que l'Europe décide d'une politique de réduction des inégalités, d'une relance de la demande, parce qu'actuellement on a les moyens de le faire, et de définir une politique industrielle qui soit européenne. Sans cela, et c'est fait beaucoup de choses, sans cela, on n'existe pas.